quoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison de vous vêtira-t-il pas, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen.
Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 8. Je la version français courant. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Amen.
Amen. Parle-moi.
Je voudrais ajouter à ce passage le psaume 127. Juste les deux premiers versets. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, la garde veille pour rien. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peine. À son ami qui dort, il donnera tout autant. Parole du Seigneur. Je voudrais vous demander de donner la main à votre voisin ou voisine en lui disant « Shalom ». Et vous gardez la main, je vais vous dire pourquoi. Shalom, pour les Juifs, signifie le bien-être intégral. Shalom, c'est la bonne santé. Il faut lui dire, soyez en bonne santé. Shalom, c'est la réussite dans toutes les entreprises. Dites-lui ça. Shalom, c'est l'harmonie en famille. Shalom, c'est le succès dans tout ce qu'on entreprend.
Shalom, c'est le bien-être spirituel et j'en passe. Alléluia. Donc, le simple mot que je vais vous dire comme message de vœux de nouvel an, c'est Shalom. Amen. Nous avons choisi pour comme message de ce matin le thème Ne crains point, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. C'est le verset 32 de Luc chapitre 12. Mon message aura trois points. Je vais définir un tout petit peu le thème inquiétude et le rallier un tout petit peu à l'anxiété qui sont des termes voisins. Et puis nous nous poserons la question pourquoi l'inquiétude est stigmatisée par Jésus. Et il y aura une petite leçon. Et nous terminons par pour triompher sur l'inquiétude en 2023 et dans la durée, que faire? Le terme inquiétude signifie un trouble. C'est un état pénible causé par la crainte. Quand vous avez peur, vous êtes inquiet. C'est l'appréhension d'un danger. On est en train d'aller en examen, on a peur, on dit, est-ce que je vais réussir? Tu vas en voyage, surtout quand on prend les bateaux et qu'on est né au nord Kivu, on n'a jamais traversé le lac. On a peur, on est inquiet. On est inquiet, on ne sait pas est-ce qu'on va arriver. On prend l'avion pour la première fois, on se dit, c'est fini. On ne va pas s'en sortir. C'est en tout cas un tourment ou un souci. L'inquiétude touche la partie physique de notre corps, mais l'anxiété est tout à fait psychique, touche le mental. Et les psychologues savent ce qu'il faut faire lorsqu'on est anxieux. Anxieux, c'est encore plus grave. Alors pourquoi l'inquiétude est stigmatisée dans ce petit texte de Luc chapitre 12, le verset 22 à 32? Nous sommes des êtres inquiets. On pourrait même dire que nous sommes talonnés par l'inquiétude. Nous sommes en train de manger. Et surtout lorsqu'on vit jour pour jour, au taux du jour, on est déjà en train de s'inquiéter, demain, est-ce que je vais trouver à manger? Alors qu'on est en train de manger. On envoie les enfants à l'école, après avoir déposé, on se dit, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que mon enfant ne risque pas de tomber? Et même quand il va retourner, est-ce qu'on ne va pas le kidnapper? On commence une relation, peut-être ça a duré 2 mois ou 1 année, on se dit est-ce que vraiment cette relation va aller jusqu'au bout. Surtout lorsqu'on a déjà commencé une relation et que cette relation n'a pas abouti. Comme on dit ici chez nous, celui qui a déjà vu une corde, un serpent, lorsqu'il voit une corde, il croit que c'est quoi? C'est encore un serpent. On a peur. Est-ce que ça va perdurer? On vient de terminer une année sans enfant. On commence la deuxième ou la troisième. On dit peut-être que je n'aurai pas d'enfant. On commence un chantier. On se dit, est-ce que vraiment je vais achever la construction de cette maison? En fait, notre vie Je ne vais pas multiplier les exemples et faites de beaucoup d'inquiétudes. Même là, pendant que je suis en train de parler, il y en a parmi nous qui sont inquiets. L'inquiétude fait partie, on pourrait dire, intégrante de notre vie. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il constate que les disciples sont aussi, tout en marchant avec le Maître, qui est tout puissant, sont aussi inquiets. Ils ne sont pas épargnés de l'inquiétude. Il leur dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous nourrir, de quoi vous serez vêtus. C'est quand même des besoins primaires. C'est quand même des besoins légitimes. Mais Jésus ne manque pas de dire à ses disciples, n'ayez pas peur. Alors, si Jésus reproche à ses disciples de ne pas avoir peur, pour quelle raison? Au verset 25, il dit, ce qui suit, je crois que nous avons encore les textes sous nos yeux. Au verset 25, il dit à ses disciples, et qui d'entre vous peut par son inquiétude faire quoi? Ajouter au moins quoi? Au moins une coudée à une durée de sa vie. Prolonger tant soit peu. Il y a un verset qui dit, prolonger même d'une heure sa propre vie. Jésus donne cet avertissement de ne pas s'inquiéter parce qu'il est conscient de l'inefficacité du souci, de l'improductivité de l'inquiétude. L'inquiétude ne nous aide en rien parce qu'elle ne peut rien faire et ne peut en aucun cas résoudre nos problèmes. Elle n'est là que pour nous troubler, pour nous déstabiliser, mais en fait, elle est improductive, elle est inefficace parce qu'il est impossible de penser que nous pouvons prolonger même d'une heure notre propre vie. Et Jésus ajoute, la vie est comment? Est plus que la nourriture, et plus que le vêtement. Alors pour lutter contre l'inquiétude, nous devons retenir deux choses importantes, peut-être même trois, deux. Il est insensé, disais-je, il est même stupide de s'inquiéter ou alors de se laisser habiter par l'inquiétude. Jésus est en train de nous confronter, nous tous au début d'une année, l'année 2023, devant cette réalité, qu'il est incontestable que rien, absolument rien, ne peut égaler la vie. Alléluia. La vie est plus que tout. Le fait que nous avons la vie, c'est déjà quoi? C'est déjà une grande richesse. Quand Jésus nous renouvelle la vie chaque matin, ce qu'il demande à chacun de nous, au début de chaque journée, c'est que nous ne puissions pas nous inquiéter. Nous ne puissions pas avoir peur. Parce qu'effectivement, en nous donnant la vie, il nous a déjà presque tout donné. La vie est donc une grâce divine à laquelle rien ne peut égaler. Alors, Jésus, pour aider ses disciples, il leur dit, observez. Une manière de dire, levez les yeux. Ne laissez pas vos regards concentrés sur vos problèmes, sur vos difficultés, si vos peines, si ce qui enquiquine votre vie, mais levez tout simplement les yeux. Cette stupidité dans laquelle on se retrouve parce qu'on s'inquiète un peu trop, Jésus nous invite à lever les yeux, ne fût-ce que pour apprendre par rapport à la manière dont il gère l'univers. Il commence par dire, regardez les corbeaux. Vous savez qu'en Israël, les corbeaux étaient des animaux impurs, comme les cochons. Mais comment Dieu, qui prend soin des corbeaux, des animaux impurs, peut manquer de prendre soin de qui? De ses enfants. C'est quand même stupide de pouvoir s'inquiéter. Il dit, regardez un peu les lits des champs, les herbes qui poussent et qui donnent des fleurs, des fleurs splendides, d'une beauté incommensurable. Et quand on les regarde, on est content, on constate effectivement comment Dieu a créé des choses extraordinaires. Mais ces fleurs, si belles soient-elles, elles ne vont pas durer plus d'un jour. C'est une journée, elles sont là, et le lendemain, elles se fanent. Terminés et ne sont plus là. Jésus est en train de dire à ses disciples, effectivement, que si Dieu se charge, dans sa bonté providentielle, des animaux impurs, combien ne le ferait-il pas pour ceux qui lui appartiennent? Si les herbes sont si bien vêtues, plus que Salomon dans toute sa gloire, combien ne vêtirait-il pas ce qui lui appartient? Quand Jésus apostrophe ses disciples, hommes de peu de foi, verset 28b, il y a deux choses qu'il veut dire là. Il ne sert à rien de s'inquiéter parce que l'inquiétude ne peut pas résoudre mon problème ou résoudre ton problème. Deux, il est stupide que nous puissions nous faire du souci parce que le Créateur de l'univers fait fonctionner son univers. S'il peut s'occuper des vaches, des poissons, des animaux sauvages, comment ne peut-il pas s'occuper de nous? Alors, le texte de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6, le dit mieux. Jusqu'au verset 8. Oui, elle est d'un grand profit, la piété, pour qui se contente de quoi? De ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. De même, nous n'en pouvons rien en apporter. Si donc nous avons la nourriture et quoi? Et le vêtement, cela fait quoi? Cela nous suffit. Alléluia. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ce qui nous sert, ce à quoi il nous appelle, c'est le contentement. Savoir être content, savoir être satisfait de ce qu'on a. Dieu a décidé de répondre à nos besoins légitimes dans sa providence divine, dans son amour impensable envers nous. Il répond à nos besoins légitimes. Il n'est pas obligé de répondre à nos désirs égoïstes, égocentriques, qui vont au-delà des besoins fondamentaux, la nourriture et les vêtements. Évidemment, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nourriture et vêtements ici, ce sont les besoins fondamentaux. Ce n'est pas seulement la nourriture et les vêtements, c'est aussi les moyens d'envoyer nos enfants à l'école, autant que que cela peut se faire. C'est aussi le moyen de nous aider à trouver même de l'argent pour payer la moto, pour aller au travail, ou de payer les bus pour aller au travail ou à l'école, l'université, en attendant qu'ils nous donnent les moyens d'acheter un vélo. Deuxième étape, ce sera une moto, et après ce sera un véhicule. Les moyens de nous faire soigner quand nous sommes malades. Tout ça sont réunis dans la nourriture et les vêtements. Alors, pour triompher, le dernier point de notre message, pour triompher sur l'inquiétude en 2023 et dans la durée, que faire? Le verset 31 nous dit rechercher prioritairement le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, il est dit chercher prioritairement le royaume de Dieu et toute sa justice, il ajoute justice. Mais ici, Luc dit rechercher prioritairement le royaume de Dieu. Ça signifie quoi? Cet impératif signifie qu'il faut laisser Dieu en Jésus-Christ prendre place dans ma vie en tant que maître, sans garder des domaines qui me sont réservés. Les laisser prendre la seigneurie, être maître dans tous les aspects de ma vie. Si je suis élève et étudiant dans mes études, qui prennent la seigneurie, si je suis une femme mariée, non mariée, en tout cas une seigneurie dans ma famille, si je suis un homme d'affaires, une femme d'affaires dans les business, si je suis un homme politique, une femme politique dans la sphère politique, et si je suis sportif, même dans l'exercice du sport, dans les loisirs qu'il prenne, les temps de loisirs, il faut qu'il occupe la place, qu'il lui revienne de droit. Mon argent, il faut qu'il occupe la place qu'il lui revient de droit. Ah, je crois vous avoir déjà dit un jour que quelqu'un voulait se faire baptiser. Il avait sa culotte quand il voulait descendre dans l'eau. Il avait son porte-monnaie, il a enlevé son porte-monnaie, il l'a mis à côté. Le pasteur lui a dit non, descends avec parce que même lui, même le porte-monnaie doit être baptisé. Alors, il y a des gens qui sont baptisés, mais leur porte-monnaie, jamais baptisé. La dîme, même de ce que le Seigneur leur donne, c'est pour eux. Ils mangent, et le 90%, et quoi? Et les 10%. Parce que le Seigneur ne règne pas. Les actions de grâce, c'est dimanche prochain. Comment on peut finir l'année et dire on n'a rien à donner au Seigneur? Alors si tu n'as rien à donner, venez à l'église, le Seigneur va te prendre. Tu restes à l'église comme Samuel était gardé à l'église. Donc tous les aspects de notre vie, il faut qu'il règne. Ceux qui l'ont fait et ceux qui continuent à le faire, bien aimé, Dieu répond à leurs besoins. Nous en avons des preuves. Dieu répond à leurs besoins. Il leur donne la nourriture, les vêtements et même des surcroît. Ne rien craindre en tant que petit troupeau, c'est ça effectivement. Les nœuds de notre message de ce matin. Ne rien craindre en tant que petit troupeau. Pourquoi Jésus utilise l'expression « ne crains pas petit troupeau » Comment Jésus nous considère? Jésus considère qu'il est le bon berger. Il est le berger par excellence. Si nous sommes dans la bergerie du Christ, si par la foi en lui, nous sommes entrés dans la bergerie du Christ, nous sommes là comme un petit troupeau pour lui. Très précieux à ses yeux. Et la preuve, c'est qu'il a choisi il a du bon plaisir de donner à tous qui sont dans sa bergerie le royaume. Y a-t-il un si grand bien que de recevoir ou d'entrer dans le royaume de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, s'il a choisi de nous donner son royaume, s'il nous prépare pour son royaume, ça signifie qu'il a bien des choses à nous. C'est vraiment merveilleux. Alors, je voulais demander aux enfants de l'école de dimanche qui sont là avec nous. Je ne sais pas si vous le savez. Ils sont à l'étage, à mezzanine. Alors, nous allons répéter le verset 32 ou 36. Je suis perdu. C'est 32. Je suis perdu. Ah, je suis dans Luc chapitre 6, verset 32. Oui, verset Luc chapitre 12. Les enfants, allons-y, Luc chapitre 12. Verset 32. Ne crains pas. Petit troupeau, votre père a jugé bon de vous donner le royaume. Encore une fois, Luc chapitre 6, verset 31. Oui. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Acclamez-vous. Alors, lorsque Jésus désigne ses disciples en termes de petits troupeaux et les invite à ne rien craindre, pourquoi il utilise le qualificatif petit? Jésus est conscient qu'ils sont fragiles, ils sont vulnérables. Parce que la communauté de Luc, il y a des disparités sociales, il y a des riches, terriblement riche. Il y a des pauvres, terriblement pauvres. Voilà pourquoi l'évangile de Luc, si vous le lisez très bien, vous constaterez qu'il y a des... Il stigmatise l'attachement à la richesse, au bien. Mais il en appelle plutôt au partage pour le bonheur. Parce que ses disciples se trouvent dans une situation de fragilité, probablement qu'ils font partie de la classe sociale la plus petite. Et Jésus les invite dans cette vulnérabilité qui les caractérise à ne pas s'inquiéter, ni pour de quoi se nourrir, ni pour de quoi se vêtir. Il garantit donc son soutien, il garantit de prendre soin d'eux dans sa providence. Il demande à ses disciples de s'appuyer sur lui. Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 11, cette prophétie dit, « Comme un berger, il fait paître son troupeau, de son bras, il rassemble, il porte sur son sein les agnellés, procure la fraîcheur aux brebis qui allaitent. » Il est donc conscient que Jésus accomplit cette prophétie, Ésaïe 40, verset 11. Il est là
pour faire paître ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas pour rien qu'il faisait des miracles, la multiplication des pains et du poisson. Parce que les gens étaient suffisamment pauvres. Il y en a même qui l'ont suivi parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Jésus est conscient de ça. Mais il n'y a pas que dans ce passage où Jésus utilise le terme « petit ». Dans Matthieu chapitre 25, verset 40, Jésus dit en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez dit à l'un de ses plus petits, vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsqu'il était en train de lui dire que ceux qui accéderaient à son royaume, ce sont ceux qui ont visité les malades, ceux qui ont donné de la nourriture à ceux qui sont affamés, ceux qui ont accueilli les étrangers, ceux qui ont donné des habits à ceux qui sont nus. Alors il dit, quand est-ce que nous on t'a vu faire ça et faire ça pour toi? Il dit, toutes les fois que vous avez fait ça pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Les plus petits ici, c'est ceux qui voient leurs droits être violés, ceux qui sont persécutés. Et nous sommes dans l'évangile selon Matthieu où effectivement il y a un problème. Le problème qu'il y a là, c'est que les croyants en Jésus ne sont pas acceptés dans leur famille. Il y a des pères qui s'élèvent contre leurs enfants. Il y a des beaux-pères qui s'élèvent contre leurs beaux-fils. Il y a des belles-mères qui s'élèvent contre leurs belles-mères. Ainsi de suite. Et ils sont terriblement persécutés. Il y en a qui sont chassés des synagogues, chassés de leur maison, mais aussi chassés de leur synagogue. Alors, dans cet environnement de la persécution, et même ceux-là qui sont mis en prison pour avoir cru en Jésus, Jésus est en train de se rendre compte ou de dire ici que toutes les fois qu'on a fait du bien à ces personnes-là, c'est à lui qu'on a fait du bien. Donc, retenons donc que toutes les fois que nous faisons du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que nous l'avons fait. Quand nous avons fait du mal à quelqu'un qui se retrouve dans une situation sans défense, c'est à Jésus ou contre Jésus que nous l'avons fait. À Marc chapitre 10 aussi, au verset 15, Jésus le dit, « Qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Il utilise le terme « enfant ». Le terme « enfant » ici est pris comme, Jésus est pris comme modèle. Veut qu'on prenne un enfant comme un modèle de totale dépendance à autrui. Totale dépendance à autrui. De grandes capacités d'écoute, mais aussi de confiance. Comme pour dire que nous devons abandonner notre folie de grandeur, notre orgueil, peut-être même notre arrogance, pour accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Nous rabaisser un tout petit peu, descendre de notre trône et reconnaître que c'est comme un petit enfant que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme des grands de la terre. Non, c'est comme des petits enfants. Heureusement que ce jour-là, on ne sera pas habillé de col pastoral. C'est comme des petits enfants qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Il faut donc un maximum d'humilité et d'ouverture pour entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais terminer en disant que donc nous sommes invités par ce message de ce jour à nous reconnaître comme petits devant Dieu. Tout au long de cette année, ça c'est le désir et le vœu, ma prière pour cette année, envers moi-même et aussi envers chacun de vous, c'est que nous puissions nous reconnaître comme faisant partie du troupeau du Seigneur. C'est très profond de faire partie. Si tu n'es pas encore entré dans ce troupeau du Seigneur, il faut y entrer le plus tôt possible et demeurer dans ce troupeau-là. Parce que demeurer dans ce troupeau-là te met à l'abri de beaucoup de choses qui pourraient porter atteinte à ta vie. Petit, nous devrions nous reconnaître comme les Anaouim, c'est en hébreu, les Anaouim en Israël qu'on considérait comme les pauvres de Yahweh, des personnes qui sont totalement dépendantes de Dieu. Ce n'est pas notre travail qui nous nourrit. Parce que si nous n'avons pas la vie, ce travail sera improductif. Il va même s'arrêter, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui nous donne la vie. Personne d'autre qui nous donne la vie, si ce n'est Dieu lui-même. Nous devons donc nous reconnaître comme des pauvres de Yahweh, des enfants de Dieu, des petits enfants, faisant partie du troupeau du Seigneur. Vivre chaque jour de notre vie, du 1er janvier, c'est aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, dépendant totalement de Dieu. Donc la petitesse ici, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas non plus une question de taille, mais c'est une attitude d'esprit, c'est une attitude intérieure. C'est cette attitude intérieure que le Seigneur voudrait au début de cette année, que je demande à Dieu de m'aider à cultiver cette attitude intérieure, de me reconnaître petit devant lui. Ce n'est pas parce que je vais courir vite que je serai champion. Mais il faut que je cours et le Seigneur me soutient. Alléluia. C'est pas parce que je me réveillerai tôt pour travailler beaucoup toute la journée, ne pas avoir le temps même de rester à la maison, causer avec les membres de la famille, que je gagnerai trop. Non, la vie est plus que tout cela. Nous devons donc éviter toute autonomie. Parce que tout dépend de la vie que le Seigneur nous donne. Tout se résume en ça. Quand tu seras triste, il va te consoler. Parce que tu fais partie de son troupeau. Quand tu seras en fête, rassure-toi qu'il fête avec toi. Il ne faut pas que tu sois l'un des chrétiens de Goma où tu fêtes et tu bois. Tu te saoules et tu dis, je fête avec Jésus. Non, tu ne fêtes pas avec Jésus. Quand tu vas pleurer, il va t'essuyer les larmes. Quand tu seras en train de marcher, que tu te fatiguera, il te portera sur tes épaules. Il pourra même comme un agneau te serrer sur son sein parce que tu es vulnérable, tu es fragile, mais tu es précieux à ses yeux. Quand tu chercheras à tomber, il te relèvera. Tu seras inquiet pour bien des choses, tourne-toi vers lui, lève les yeux vers lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais te demander de t'élever parce que tu as besoin de prier pour cette année. Demande à Dieu quelque chose selon le message que tu viens de suivre ce matin. Tu ne peux pas t'autosuffire. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de dépendre totalement de lui. Au moins à ce titre-là, tu vivras en paix toute l'année. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que en Christ, et par le Christ, tu as choisi de nous donner le royaume.
Si, ô Seigneur, tu as choisi de nous donner le royaume, nous devrions tous et toutes nous bousculer pour faire partie de ce troupeau du Seigneur dont tu prends soin dans toute sa providence. Et cela chaque jour et à chaque instant. Ma prière ce matin est que tu prennes soin de ceux-ci parce que tu les as établis dans cette église comme troupeau du Seigneur. Et j'espère qu'il en est ainsi pour chacun. Je souhaiterais, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tout un chacun, pour les enfants, pour les jeunes, pour les mamans et les papas, tous et toutes, Seigneur, parce que c'est dans ta bergerie que nous allons vivre sans crainte et sans frayeur, sans nous angoisser outre mesure, parce qu'au cours de l'année, il y a des choses qui pourraient nous arriver, que nous n'avons pas prévues. Merci d'accorder grâce, de trouver en toi le réconfort lorsqu'on en aura besoin. De trouver en toi le réconfort lorsque ce sera un besoin urgent, Seigneur. De trouver en toi les soins dont on a besoin, sur tous les plans. Même lorsqu'on sera inquiet pour son avenir, pour les temps qui passent dans le chômage, pour les temps qui passent sans enfants, pour les temps qui passent sans se retrouver en train d'évoluer selon qu'on l'a prévu, planifié. Donne les assurances, Seigneur, que tu tiens en main la destinée de chacun et tu ouvres la porte, même les portes qui sont verrouillées. Accorde grâce, Seigneur, à tout un chacun, lorsque ce sera le moment de pleurer, trouve en toi celui qui essuie les larmes. En toi, celui qui donne de la nourriture, des vêtements, des frais scolaires, des frais académiques, des moyens pour pouvoir aux besoins des enfants et de trouver en toi la réponse même pour les questions qui sont restées sans réponse, mais qui trouveront la réponse au cours de cette année 2023. Bénis ton peuple, bénis ton message. Au nom de Jésus, te prions. Amen.